Allumé. Voilà. Bon. Ah, ça fonctionnait tout à l'heure. T'as pas enlevé la clé USB sur le côté, non? Ah, voilà, ça y est. Voilà, alors ce matin, nous sommes très heureux comme chaque fois que nous venons ici. J'ai l'impression que chaque fois que je viens, j'entends parler du psaume 23. Alors, la dernière fois que je suis venu, je vous ai apporté un message sur le psaume 23. Je suis revenu en visiteur et c'est Paul, le pasteur Paul, qui a prêché sur le psaume 23. Et je reviens ce matin pour vous apporter, et puis c'est notre frère qui nous apporte en introduction le psaume 23. C'est un psaume favori à Bois-de-Villers, non? C'est un psaume que j'apprécie aussi énormément. Mais il n'y a pas de hasard avec Dieu. Hein. Donc nous sommes vraiment très heureux de pouvoir avoir ce bon berger, ce Seigneur qui est là à nos côtés, qui veille sur chacun de nous et qui nous protège quelque part en tant que berger vis-à-vis de ses brebis. Alors c'est pas mon message ce matin, du tout. J'aimerais en ce début d'année, et c'est un privilège pour moi, merci encore pour l'invitation Pascal, Chantal, de nous trouver ici avec vous. J'aimerais en ce début d'année, eh bien vous apporter un message sur ranimer le feu. Ranimer le feu. J'ai été interpellé ces derniers temps, et hier nous avions une pastorale, et nous avons eu notre pastorale de début d'année où nous avons intercédé, prié, et quelque chose qui est revenu, et ça rejoignait un petit peu ce que j'allais apporter ce matin, c'est que il est indispensable, mes amis, frères et sœurs, c'est que vous puissiez être remplis du Saint-Esprit. Rempli de feu. C'est indispensable. À l'heure où nous vivons aujourd'hui, il n'est pas possible de vivre sans. Le Saint-Esprit, c'est pas une option. Vous savez que lorsque vous allez commander une nouvelle voiture, on vous propose toutes sortes d'options. Et c'est vous qui choisissez les options que vous voulez mettre dans ce véhicule. Mais dans la vie chrétienne, le Saint-Esprit, c'est pas une option. Je prends ou je ne prends pas. Il vous est donné, c'est comme un cadeau, et c'est à nous à le saisir par la foi et de pouvoir l'entretenir et l'alimenter jour après jour. Vous savez, j'ai été baptisé du Saint-Esprit à 11 ans, je l'expliquais hier en pastoral, et j'étais dans un camp à Ranly, et nous avions passé une soirée, et là j'étais rempli du Saint-Esprit. Et pendant longtemps, j'ai négligé ce don. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous dis que il a fallu quelques années pour que je dise, mais enfin j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu et je le manifeste pas. Je l'exprime pas, je l'exploite pas. C'est dommage, parce que le Saint-Esprit c'est une force, c'est une puissance, ça va me permettre de mieux témoigner, ça va me permettre de mieux parler de Jésus, ça va me permettre de passer outre des épreuves et des difficultés qui s'amoncellent, et ne me dites pas que vous vivez une vie tranquille, remplie de roses et de violettes, parce que sinon, vous venez me trouver à la fin du culte et vous me dites comment vous faites. Parce que moi, c'est pas une rue pavée d'or que j'ai devant moi. Il y a aussi des épreuves, des soucis, des circonstances difficiles. Mais avec le Saint-Esprit, avec le feu dans ma vie, je peux arriver à passer outre. Vous avez le droit de dire amen. Hein. Je crois que c'était dans mes notes. Non, c'est pas dit ça. Vous avez le droit de dire amen parce que c'est vrai. Et nous allons voir au travers de l'Écriture que parfois, dans notre vie chrétienne, nous avons tendance à nous relâcher. C'est biblique. Il y a des hommes de Dieu, nous allons voir au travers de l'Écriture ce matin, qu'à un moment donné, eh bien, il nous est demandé, c'est l'apôtre Paul qui va parler à Timothée, de ranimer le don de Dieu. Ranimer. Alors, sans plus tarder, on va faire cette lecture dans 1 Timothée, chapitre 1er. Je vous ai mâché le travail ce matin, ça va? Est-ce que vous êtes quand même venu avec vos Bibles? Un soldat ne part jamais sans son arme. Maintenant, on a notre petit smartphone, hein, c'est terrible. Hein, ça va, j'étais à la pastorale, mon fils hier me dit, tiens, t'as pas pris ta Bible? Je dis, non, ma Bible est là. Tiens, t'es guéri, t'es connecté maintenant. Je dis, oui, maintenant, je suis un pasteur connecté. Non, mais j'ai quand même ma grosse Bible, parce que je me méfie de ces engins-là. Si à un moment donné, ça m'est jamais arrivé, mais si à un moment donné, je prêche avec ça et que ça se coupe, ou ça se bloque, ou... Pff, Seigneur, compte plus que sur ta grâce. Et donc, comme dirait mon père qui a 81 ans, le bon vieux papier est toujours d'actualité. Alors, si vous voulez bien, ce matin, néanmoins, je vous ai mâché le travail, on va faire cette lecture ensemble. C'est pourquoi, dira Paul, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Amen. J'étais cherché dans une autre traduction, c'est la traduction Louis II, celle que nous employons le plus couramment, et j'aimerais vous lire cette version dans le livre de la Semeur. C'est pourquoi je te rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Dieu ne nous a pas donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. C'est plus fort cette traduction, hein? Loin de nous de faire, d'être des lâches, mais de nous remplir d'un amour fort, aimant et réfléchi, un esprit fort, aimant et réfléchi. Quelle belle révélation que le Seigneur nous recommande en ce début d'année. Vous savez que certainement que vous avez en ce début d'année déjà essayé tant bien que mal de mettre en route certaines choses que vous n'aviez peut-être plus faites, hein, nouveaux projets, nouveaux objectifs. Cette année je vais faire ceci, au 1er janvier je fais ça. C'est comme le régime, hein. On commence toujours le lundi. On ne sait pas quel lundi, mais on commence toujours le lundi. Et bien souvent on prend de nouvelles résolutions. Nouvelle résolution où on se dit, tiens, en ce début d'année, j'aimerais faire ça pour le Seigneur. Et parfois, nous prononçons des vœux, malheureusement, que nous ne tenons pas. Alors, je voudrais vous mettre en garde ce matin contre les vœux que nous faisons et que nous ne tenons pas. La Bible ne nous demande pas de faire des vœux. Elle nous dit que si nous faisons un vœu, nous devons le respecter. Parce que si moi, à un moment donné, je fais fi du vœu que j'ai fait, Dieu en tient compte. Et risque de nous rendre et de nous demander des comptes par rapport à ce vœu. Alors moi je dis toujours, Seigneur, je vais faire des vœux que je vais essayer, ou que je dois pouvoir réaliser. Pas des vœux irréfléchis, que je ne suis pas capable de tenir, parce que Dieu va m'en tenir rigueur. Mais que je fasse des vœux que je sois capable de tenir jusqu'à la fin de l'année. Et ça ne veut pas dire qu'au 31 décembre 2018, le Seigneur nous dira, tiens, le vœu que tu m'as fait au 1er janvier, où il est-il? Un vœu ne reste pas pour une année, mais un vœu reste pour jusqu'à la fin, jusqu'au moment où Jésus reviendra. Alors faites attention aux vœux que nous prononçons. Mais ce matin, une belle révélation, il nous recommande en cette nouvelle année de ranimer le feu, le don de Dieu. Nous sommes dans cet épître, dans ce qu'on appellerait le testament de l'apôtre Paul. L'apôtre est en prison, il est à Rome. Il voit venir à grands pas sa mort, et avant de mourir, il ne se lamente pas, il ne gémit pas, il ne commence pas à se plaindre, mais il veut encourager son serviteur. De là où il est, il veut encourager Timothée, son fils spirituel. Dis-moi, tu sais, je vais bientôt mourir, mon heure approche, mais toi, je t'encourage à ne pas baisser les bras, je t'encourage à persévérer, je t'encourage à continuer sur le chemin, je t'encourage à ranimer le don, tu te souviens du don que tu as reçu par l'imposition de mes mains, dira Paul. Eh bien, je t'encourage, mon ami Timothée, à raviver le don qui est en toi, à ne pas le laisser faiblir, à ne pas le laisser s'éteindre, mais de le ranimer pour le Seigneur. Littéralement, Paul dit à Timothée, ranime le feu du don de la grâce. Du don de la grâce. Vous savez, il y a deux moments importants dans la vie de Timothée que Paul va rappeler justement à ce dernier. Et dans nos vies, parfois, il y a aussi deux moments. Le moment avant la conversion, le moment où nous vivions peut-être notre vie sans Dieu, sans espoir, sans espérance, sans lendemain, et à un moment donné, eh bien, il est arrivé à ce que le Seigneur est rentré dans notre vie. Il y a ces deux moments. Ça n'a plus rien à voir avec le passé. L'avenir maintenant est prometteur parce que nous avons Jésus dans nos vies. Mais même dans notre vie chrétienne, il peut y avoir des moments, et peut-être deux moments. Des moments où nous sommes très forts, des moments où nous sommes invulnérables aux yeux des hommes, aux yeux de tous ceux qui nous entourent, et peut-être même aux yeux de Dieu, où nous sommes forts, nous sommes vaillants, nous avons une foi qui est forte, qui résiste à toutes les tempêtes de la vie. Mais il y a aussi ce moment où c'est plus difficile. Ces moments où nous sentons complètement vulnérables, fragiles. Et ces moments-là, Timothée les a passés. Alors moi j'aime l'écriture, j'aime la Bible parce que j'ai l'impression de voir et de lire dans ces lignes ma propre vie. Parce que moi aussi je peux passer par des moments difficiles, délicats, des circonstances douloureuses dans ma vie. Alors le début de son ministère à Timothée, eh bien, c'était le zèle. Plein de passion pour la maison de Dieu, pour le peuple de Dieu, de la vie de prière, la méditation régulière de sa parole. Tout cela était son quotidien. Tout cela faisait partie de sa vie. Il allait à l'église avec un zèle, et il avait un ministère pour le Seigneur. Il était enthousiaste, il était résolu de ne pas se souiller, il était celui sur qui l'on pouvait compter à tout moment. Et lorsqu'on a disait, quelqu'un veut-il se lever dans l'église, Timothée était le premier à se lever. Était le premier à prendre une charge et vouloir servir Dieu dans tous les domaines. Il n'y avait pas besoin de le pousser, Timothée. C'était quelqu'un sur qui l'on pouvait compter à tout moment. Quel beau profil d'un homme de Dieu, vous ne trouvez pas? Un homme sur qui l'on peut compter, dans les bons comme dans les mauvais jours, lorsque ça va bien et lorsque ça va mal. Un constat, pourtant, est dressé à un moment donné. C'est le ralentissement dans sa marche et l'exercice de son ministère est probablement dû au constat, parfois, pour ne pas dire souvent, à un manque de temps. Vous savez, aujourd'hui, on vit beaucoup dans l'activisme. On a toutes sortes d'activités. Hier, j'ai bien aimé un serviteur de Dieu qui disait ceci. Aujourd'hui, on a oublié, on essaye de paraître, d'être. On essaye d'avoir le meilleur groupe de louanges. On veut montrer que par nos propres capacités, compétences et dons que Dieu nous a donnés, on met tout cela en avant et on met derrière le Saint-Esprit. On essaye de faire croire qu'on peut y arriver sans lui. En paraphrasant, c'est ce qu'il disait, hein, Pascal. Et il faut que cette génération aujourd'hui n'oublie pas que sans le Saint-Esprit, il n'est pas possible d'avancer. Il n'est pas possible de progresser. Il n'est pas possible, oui, on peut avoir de très beaux cantiques, on peut avoir de très beaux choristes, on peut avoir de très, très chouettes musiciens. S'il n'y a pas l'onction de Dieu sur leur vie, cela ne sert à rien. Vous avez le droit de dire amen, hein, si vous êtes d'accord avec moi. Mais c'est vrai. Je peux être le meilleur, mais si le Saint-Esprit ne vit pas en moi, je serai qu'un brouillant. Mais si l'onction de Dieu réside, alors il y aura une différence énorme, mes amis. C'est que moi je vais m'effacer pour laisser le Saint-Esprit agir et passer au premier plan, pas au second. Alors oui, je vous encourage, et Dieu nous encourage ce matin, il peut y avoir un constat, un ralentissement dans notre vie. Déception. Qui n'a jamais été déçu? Levez la main. Ouf. Sinon, vous seriez les premiers menteurs. Qui n'a jamais été déçu? Même de Dieu. Ah, oh, ben Dieu ne déçoit pas, frère, ah non? Ah, ben écoutez, moi, je suis peut-être un des seuls qui a peut-être été déçu par Dieu. Je vous trouble, hein. Quand Dieu ne répond pas comme j'ai envie, est-ce que je ne me sens pas déçu? Ah. Alors oui, je peux dire, ben Seigneur, tu me déçois. Parce que j'aimerais tellement que tu répondes comme moi je le souhaite. Comme moi je le désire. C'est très facile de dire, non, Dieu ne déçoit pas. Moi, je ne suis pas le premier à le dire. Parce que lorsque il répond d'une manière différente, vous croyez, oh, il n'est pas écrit. Mais l'apôtre Paul prie 3 fois pour une écharpe. Puis 3 fois, Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Ça, c'est une belle récompense, hein. Ça va l'aider dans sa foi, hein. Ça va l'encourager. J'ai mal, je souffre, je sais pas ce qui se passe. Et Dieu me dit, ma grâce te suffit, compte dessus. Ah oh ben, merci Seigneur. C'est pas vrai? C'est la même chose. Lui qui guérit les autres, il n'est pas capable de se guérir lui-même, ou en tout cas d'être guéri par Dieu. Et c'est là toute la difficulté, mes amis, frères et sœurs. C'est que parfois, une blessure intérieure est là, et ronge comme une gangrène, et nous empêche d'être heureux, nous empêche de vivre notre vie chrétienne épanouie, parce que des paroles ont été gravées, semées dans nos cœurs, ont été destructeurs. Et nous empêche de vivre notre vie chrétienne épanouie. Il y a des manques de fruits, des conflits, etc. Et on pourrait en rajouter de notre ralentissement dans notre marche avec Dieu. Et Paul s'adresse à Timothée avec une recommandation qui est aussi pour nous, en ce début d'année, d'une importance capitale pour 2018. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que Jésus revient bientôt. Et tous les jours qui passent nous rapprochent de ce jour fatidique où Jésus reviendra. Soit nous irons vers lui, comme notre frère nous l'a dit tout à l'heure, ou c'est lui qui viendra à nous et viendra nous chercher. Et pour cela, il faut être prêt. Il faut être prêt. Malgré ce que tu vis, mon frère, ma sœur, ce que tu traverses, ce matin, Dieu te dit comme à Timothée, mon fils, ma fille, rallume la flamme. Rallume la flamme. Rallume la flamme dans ta marche avec Dieu. Rallume la flamme dans ta vie de prière. Rallume la flamme dans la lecture de la Bible. Rallume la flamme dans cette communion que tu dois avoir avec ton Dieu. Passe du temps avec Jésus. Amen. Eh oui. Rallume la flamme dans ta vie, dans l'exercice du ministère prophétique. Faut pas s'attendre à ce que ce soit les autres qui prophétisent, ou que l'on compte sur l'autre pour prophétiser. Quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, quelques années après, j'ai dit, Seigneur, je vais avoir le don de prophétie. Et, ah oui, je prophétisais en langue. Ça, c'est facile, ça. Et je m'attendais toujours à ce que ce soit mon père qui traduise. On se mouille pas trop. Parce que celui qui parle en langue, celui qui interprète en français, c'est celui-là qu'on va juger. Pas celui qui va prophétiser en langue. Vous êtes d'accord avec moi? D'ailleurs, la Bible dit qu'il est plus grand que celui qui prophétise en langue. Alors moi, je me cachais, je me disais, « Oh, mon père va prophétiser en français. » Là, la traduction arrive. Et puis un jour, il m'a dit, « c'est facile, ça. » Il m'a appelé, il m'a dit, « Ça serait peut-être pas mal que tu aies le don d'interpréter. Bon, »« Pourquoi faire? Tu l'as ?» Et ça, c'est facile, on se met... En se disant, mais tiens, quelqu'un d'autre. Et Dieu me dit ce matin, Dieu te dit ce matin, rallume la flamme de du don prophétique que Dieu t'a donné. Ne laisse pas cette occasion filer, ne laisse pas cela à d'autres, mais recherche. Recherche les dons spirituels. Tu veux grandir dans ta foi, tu veux grandir dans ta vie chrétienne, tu veux aussi être une aide et un porte-parole de Dieu, alors place-toi devant le Seigneur. Vous avez le droit de dire amen, hein. Je le répète plus. C'est vrai, vous êtes d'accord avec moi? Eh oui, rallume la flamme de prédicateur, rallume la flamme de l'intercesseur, rallume la flamme de l'homme d'affaires que tu es. Je voudrais vous orienter cette année à tourner autour de quatre points importants. Quatre points importants. Alors cette année, ce sera l'année des champions. Vous voulez être un champion pour Dieu? Ah. Les champions, on les prend toujours pour des gars qui sont forts, là. Les champions spirituels, qui vont marquer le coup, qui vont avoir une empreinte ici, à Boisdevillers, mais aussi autour de là où vous habitez. Timothée est invité à faire le point et prendre des décisions importantes en vue d'un nouveau départ dans sa vie et dans son ministère. Il a été formé à l'école des champions, par un champion lui-même, puisque c'était l'apôtre Paul, pour être et pour devenir un champion. Alors qu'est-ce qu'un champion? Vous allez me dire, c'est celui qui remporte des victoires, c'est celui qui est vainqueur, évidemment. Et dans notre vie spirituelle, comment pouvons-nous devenir un champion? Eh bien, voyez-vous, les champions, ce sont ceux qui ne vivent pas et ne parlent pas en mode échec. L'échec, ça existe, mais ils ne restent pas sur l'échec. Ils ne se disent pas, c'est fini, c'est terminé, ça n'ira plus jamais. Moi, j'en ai rencontré des chrétiens comme ça. Chaque fois qu'il y avait une tuile, c'est ça n'ira plus jamais. Ça n'ira plus jamais, frère. Mais si, ça va aller. C'est juste une épreuve. Et celle-ci, elle était aussi grosse que la précédente. Et tu me disais aussi la même chose. Ça n'ira plus jamais. Mais le vrai champion ne parle pas en mode échec. On peut perdre des victoires, des batailles. On n'est pas toujours au plus haut de sa forme. Mais on ne reste pas dans l'échec. On continue à combattre, on continue à essayer de gagner, et on sait que la victoire, elle est acquise, et nous pouvons, par la grâce de Dieu, remporter d'autres victoires. Les champions ont l'habitude de faire de l'échec un point d'arrêt temporaire, une analyse. Où est-ce que ça, excusez-moi l'expression, où ça a planté? Où est-ce que ça a foiré? Où est-ce qu'il y a un moment donné où je me suis trompé pour en arriver à cet échec-là? Et c'est à un moment donné une aide pour celui qui connaît l'échec. Ça ne lui permet pas de s'arrêter pour terminer sa course, mais ça lui permet de s'analyser pour se dire, attention, il y a danger, et à ce moment-là, je vais être vigilant pour ne plus retomber là, mais d'aller plus loin. C'est ça le vainqueur. Les champions ont appris à ne pas être des victimes permanentes, mais à grandir au travers des épreuves. Il y a des chrétiens qui ont toujours la tête vers le sol, jamais la tête vers le ciel, et ils vivent comme ça, tristes, malheureux. C'est pas des champions, c'est pas des vainqueurs, c'est des vaincus. Ils n'attendent qu'une chose, c'est le retour de Jésus. Oh Seigneur, reviens bientôt. C'est pas des champions, ça, vous êtes d'accord avec moi? C'est des gens qui toute leur vie vont être tristes et n'auront pas une vie chrétienne épanouie. Comment pouvons-nous, en étant dans cet état-là, parler de l'amour de Jésus à d'autres? Et leur dire, viens à l'église, tu verras, ça va être bien, tu sais. Vous saisissez? C'est pas possible! Mais si, malgré les soucis, malgré les difficultés, malgré les épreuves, les autres nous voient et voient une différence parce qu'eux aussi traversent la même chose que nous, mais nous, nous arrivons à passer outre. Pourquoi? Parce que nous pouvons leur dire, nous avons le Seigneur avec nous, et tant que le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Tu sais, j'ai les mêmes épreuves que les tiennes, sauf que toi, t'es tout seul dans l'épreuve. Moi, j'ai la grâce de Dieu avec moi. Et ça, c'est la différence. Ça, c'est le champion qui parle comme ça. C'est le champion. Pour les champions, la tempête est une opportunité de voir la gloire de Dieu. Jamais vu ça comme ça, hein? Si vous aviez dit ça aux disciples, ah, vous savez, la tempête que vous avez là, ben c'est une opportunité de voir la gloire de Dieu. Oui, mais en attendant, on est en train de couler. C'est la réaction humaine. Et pourtant, sachons et sachez, mes amis, que dans toute épreuve que vous avez, c'est une opportunité pour que Dieu montre sa gloire. Vous montre qu'il est capable, qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est infiniment capable de faire au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou imaginer. Oui, ne prenons pas l'épreuve comme quelque chose qui va, oh, c'est sûr, ça va nous accabler, mais comme quelque chose qui va nous stopper, nous arrêter sur notre route. Au contraire, au travers de cette épreuve, sachons que Dieu va se glorifier. Et Dieu va nous élever. Amen. On poursuit. Deuxième point. Une année de constance. Constance. Une année de constance ou d'excellence. J'aimerais vous dire que vous avez été créé pour le meilleur, pas pour le pire. C'est pas comme dans le mariage. Un homme m'a dit un jour, si je me suis marié pour le meilleur et pour le pire, j'attends toujours le meilleur. Ça fait peur, hein? Ça, mademoiselle. Eh oui, vous avez été créé pour le meilleur. Il y a un cœur que j'aime beaucoup qui dit, je suis fait pour te louer. suis fait pour glorifier ton nom, en toutes circonstances, sachant que nous avons été créés pour le meilleur. Le mot d'ordre de l'année, c'est « lève-toi et avance, donne le meilleur de toi-même, le meilleur de toi-même ». Il y a toujours en nous quelque chose de bon, et c'est ça qu'il faut faire ressortir. Les qualités que Dieu nous a données, il faut pouvoir les mettre en exergue, en évidence, pour que Dieu se glorifie dans nos vies. Ne cherche pas à être un moyen, alors que tu as et tu es le meilleur dans le travail, dans tes études, dans les affaires. Dieu est capable de nous aider dans tous les domaines de notre vie. Dieu nous a donné un cerveau. Je le dis aux élèves cette semaine, je dis, t'as déjà vu ton cerveau ? Non, monsieur, moi non plus. Mais si tu vois que t'es intelligent. Et Dieu nous a donné un cerveau, une intelligence, des capacités, des compétences. C'est à nous à les mettre en valeur, à les mettre au service de Dieu, pour qu'il puisse les faire fructifier à la gloire de son nom. Perfectionne ce que tu fais. Perfectionne ce que tu fais. Vous savez, la Bible nous parle de talents. Celui qui en avait 5, il les a mis à profit, il en a gagné 5 autres. Celui qui en avait 2, c'est pas qu'il était plus bête que l'autre, Dieu lui a donné 2 talents. Mais ce qu'il a fait, il a fait comme celui qui en avait 5. Il les a mis au profit pour Dieu. Et qu'est-ce qu'il est arrivé? Il en a gagné 2 autres. Il n'y a que celui qui en avait qu'un seul, qui l'a caché, Dieu en haut, on n'est qu'un, moi. Parfois on m'appelle la pieuvre ou l'homme orchestre. Je dis, t'as déjà vu tous les dons que tu as, toi? Bah, il n'y a plus rien. Mais j'en ai pas. Si, tu en as. Il faut simplement que tu les découvres et que tu les mettes au service de Dieu pour que Dieu se glorifie. Celui qui en avait un, s'il avait fait pareil que les 2 autres, Dieu aurait été glorifié. On ne nous demande pas d'avoir 50 talents. Dieu nous donne des talents, c'est à nous à les mettre pour le Seigneur à son service. Vous êtes d'accord avec moi? Imaginez que dans une église, c'est pas le cas ici, mais j'en connais des églises où ils sont nombreux, il n'y a pas un seul musicien. Il n'y a pas un seul musicien. C'est pas des blagues. J'en ai connu des églises où j'arrivais, c'était le seul musicien, c'était le pasteur. Et quand il était en visite, en déplacement, l'église était privée de son musicien. Et donc si dans l'église, il y a des musiciens qui jouent et qui ne veulent pas mettre leur talent au service de l'église, c'est dommage, vous ne trouvez pas? Si vous êtes capable de faire quelque chose pour le Seigneur et que vous le faites de tout votre cœur, mais Dieu va le mettre en évidence, oh c'est vrai qu'il y a des talents cachés ou des dons cachés. Vous êtes bien content ce matin de vous asseoir sur une chaise propre, mais derrière cela il y a un talent, il y a un don qui est passé là et qui a nettoyé la chaise. Sur laquelle vous, le dimanche matin, vous venez, oh, il fait propre, c'est chouette. Ah oui, mais c'est parce que si celui qui a ce talent-là ou ce don-là ne le pratique pas, vous saisissez? Toutes les fois où vous faites ceci à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, dit Jésus. Alors si je nettoie l'église, ben non seulement c'est pour vous, les chrétiens ou ceux qui viennent, mais je le fais aussi surtout pour lui. Talent caché. Don caché, mais que Dieu met et que Dieu voit. Vous savez, je me souviens, c'est une histoire vraie, un fils de pasteur qui, à un moment donné, arrive près de son père, il dit, oh papa, j'ai une bonne nouvelle, j'aimerais servir Dieu. Alors le père était tout content, il dit, c'est formidable, et le fils lui dit, écoute, ça serait bien que tu annonces à l'église que ta progéniture, il y a une succession quelque part. Et le père dit, oui, c'est une bonne idée, donc je vais faire ça. Puis dimanche arrive, et puis le fils est dans la salle, et à un moment donné, il a peut-être quasiment rien écouté de la prédication, parce qu'il attendait juste les annonces. On va annoncer à l'église que je vais servir le Seigneur. Alors, le pasteur dit, voilà, j'ai plusieurs annonces, donc il fait les annonces, et puis moi j'ai une annonce importante à vous faire. Cette semaine, mon fils est venu, et j'ai une bonne nouvelle pour vous, il va servir le Seigneur. Alors toute l'église est en liesse, en joie, vous comprenez? Et puis, le pasteur dit, j'ai une autre bonne nouvelle. ceux qui vont venir nettoyer cette semaine ne viendront pas, je vous mets en congé. Ce sera mon fils qui va le faire. Eh oui. Et c'est comme ça, mes amis. On ne sert pas Dieu pour arriver ici. On sert Dieu parce que on bouge les chaises, on range les chaises, on range le matériel. Et puis après, quand on est fidèle dans les petites choses, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que ta Bible dit? Il nous confie des grandes. Il nous confie des grandes. Alors avant d'être ici, c'est pas mon histoire hein, du tout, mais on a rangé les chaises. On était là, comme Timothée, homme fidèle, zélé. Il n'y a pas besoin de faire deux fois un appel que, waouh, Timothée était présent. Peut-être au garde à vous. Mais c'est comme ça, vous saisissez. Ah, l'appel de Dieu, le meilleur que tu as, mets-le à la disponibilité de l'Église et à la disponibilité de Dieu. Troisième point, une année d'excellence, c'est, je l'ai dit, une année de productivité, une année d'excellence, une année de constance, une année où la promesse de Dieu sur ta vie montre que Dieu va te bénir. Comme il l'a fait en 2017, les promesses de Dieu ne sont pas épuisées, elles sont les mêmes. Et ce que Dieu a dit, ce que Dieu t'a promis, il l'accomplira certainement. Dieu va te bénir en 2018, plus peut-être que les autres années de ta vie. Il faut le croire. Il faut le croire. Il faut dire, Seigneur, tu m'as béni les autres années, mais je veux croire que cette année tu vas encore plus me bénir. Mais que je vais encore plus te servir. Ah, il y a des amens quand même, hein. Eh oui, on aime beaucoup les bénédictions. Seigneur, donne. Et toi, qu'est-ce que tu donnes, toi? Bah, je viens à l'église, c'est déjà pas mal, hein. C'est pas vrai? Je viens le dimanche. Moi, je ne sais pas, je vous connais pas, je suis pas là la semaine, donc. Moi, en fait, j'ai un privilège sur votre pasteur, c'est que moi, je peux tout vous dire. Que le pasteur peut pas, parce que, pas pour moi ce matin. Mais moi, je peux tout vous dire. C'est ça l'avantage. Je dis toujours qu'on devrait faire l'église dans l'autre sens. J'ai plus facile pour partir en courant vite. Tandis que là, je suis obligé de traverser la salle. Mais c'est vrai, mes amis. On vient le dimanche. Mais on dit, Seigneur, donne. Et puis le dimanche matin, on est là, assis. Et on n'est même pas capable. Pardonnez-moi, je ne sais pas si c'est comme ça. Et on n'est pas capable de louer Dieu. Dire, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as tout donné cette semaine. C'est pas vrai? Eh oui. Ah, ce que je peux donner pour le Seigneur, ce que je peux donner pour Dieu, Dieu le voit. Dieu le voit. Et Dieu s'en réjouit. Et parfois, je suis persuadé que Dieu a son cœur qui saigne. Tu sais, vous savez, j'ai toujours dit cela, on prend Dieu parfois pour la cinquième roue du carrosse, la roue de secours. Tant qu'elle ne sert pas, elle peut rester dans le véhicule pendant toutes les années qu'on a le véhicule. À un moment donné, quand on a une crevaison, on est bien content de l'avoir, la roue de secours. Et on râle peut-être même parfois parce que le pneu est un peu dégonflé. C'est pas vrai? Et vous savez, parfois on prend Dieu pour une roue de secours. Quand ça va bien, on s'en occupe pas. Et quand ça va mal, Seigneur, le pneu est un peu dégonflé, hein. Faudrait peut-être que... Vous comprenez? Et malgré tout, parce que Dieu nous aime, Dieu vient à notre aide. C'est encore ça, un mystère. Le mystère de Dieu. C'est que malgré tout, il vient à notre aide. Il vient à notre aide. Oui. Cette promesse a un petit détail pour faire un champ que l'Éternel va arroser avec la pluie du ciel. Dans le Deutéronome, il nous est dit ceci. Je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint ce matin, car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte où tu es sorti, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. C'est formidable, hein? Du commencement à la fin de l'année. C'est comme si, en paraphrasant aujourd'hui, je pourrais dire, Dieu a un regard sur l'église de Bois-de-Villers, du début jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, Si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail. Tu mangeras et tu te rassasiras. Il suffit de obéir. Ah, l'obéissance. Un autre message, bien plus important aussi, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On donne beaucoup à Dieu, mais on obéit peu. On n'obéit pas à ses commandements. Et après, on s'étonne que Dieu n'agit pas. Alors, oserais-je dire que Dieu agit selon des conditions à remplir ? Ben, je pense que oui. C'est ce que nous venons de lire. Si tu obéis à mes commandements, je te donnerai. Si tu fais ce qu'il faut, j'accomplirai mes œuvres pour toi. D'ailleurs, vous savez, lorsque vous relisez dans l'Ancien Testament et dans le Deutéronome, c'est effarant. Le nombre de malédictions qui est écrite pour le peuple d'Israël s'il n'écoute pas, il y a des versets entiers, des chapitres entiers. Et à côté de ça, croyez que Dieu est plus restreint dans ses bénédictions. Il n'y a que quelques versets pour les bénédictions. Autrement dit que si nous obéissons, Dieu est large. Il n'a pas besoin de commencer à mettre des chapitres complets pour nous dire que Dieu nous bénira. Par contre, dans l'autre sens, quand nous n'obéissons pas et que nous refusons d'écouter la voix de Dieu, les malheurs s'abattent sur Israël et nous avons pu voir, à travers de l'Écriture, quand nous lisons notre Bible, combien les malheurs ont frappé Israël de tous côtés. Et qu'à chaque fois, lorsqu'il revenait à Dieu, eh bien Dieu revenait de ses mauvaises voies, ses mauvais objectifs ou buts qu'il avait pensé faire. Oui, il y a un moment donné où des conditions à remplir, mes amis, des conditions à remplir pour vivre une année bénie en Dieu, bénie en Dieu. Alors, je termine avec ce quatrième point. Une année de productivité, une année de constance, une année qui va nous permettre de produire du fruit et d'avoir tout ce dont nous avons besoin. Vous savez, la ténacité et la stabilité va nous permettre de produire du fruit. Si je suis stable et si je suis tenace, je ne te laisserai tant que tu ne m'es béni, comme disait Jacob. Je ne te laisserai, je te laisserai pas. Je passerai pas un jour sans venir à toi et te réclamer tant que tu ne m'aies accordé ce que je t'ai demandé, ce qui est légitime. Faut encore que ça soit légitime, on est bien d'accord, hein. Que ça soit selon la volonté de Dieu. Mais si nous savons que ce que nous demandons est légitime et que nous savons que Dieu peut le donner, alors il faut continuer à persévérer jusqu'au moment où nous obtenons la bénédiction. Vous êtes d'accord? Et l'exaucement. J'aime les paroles de Caleb. Il rappelle cela à Josué. Dans ce texte, il dit « Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. » Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. « Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. » 85 ans. Frère, vous avez quel âge ? Oh, ben voilà, vous avez encore le temps, hein, 12 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Formidable, hein, 85 ans. Aujourd'hui, moi j'ai des jeunes qui ont 16 ans et sont fatigués. Je dis, si on pouvait remettre le service militaire au rendez-vous en Belgique. Oui, mais je suis pas sûr qu'on serait bien défendu. Alors lui, Caleb, 85 ans, encore autant vigoureux qu'autrefois. La force n'a pas changé, le zèle n'a pas changé, l'enthousiasme n'a pas changé, l'envie de combattre n'a pas changé. C'est formidable, hein. Alors, nous n'avons pas tous 85 ans. Personne d'ailleurs ici. Eh non. Et donc nous pouvons être victorieux, vigoureux, combattants, pour sortir et pour entrer. Oui, je suis encore vigoureux. Il y a 45 ans que j'ai exploré ce pays avec toi, dira Caleb. Parce que Caleb fait partie des 12 espions, hein, qui sont partis ensemble avec Josué. Et évidemment, les autres n'ont pas... C'est la majorité qui l'a emporté sur la minorité. Nous avons vu des géants ! C'est tout. Ça a détruit. Vous savez, si je vous dis ce matin, vous êtes beau, mais... Ça veut dire que vous n'êtes pas beau du tout. C'est vrai, parce que le mais va détruire tout ce que je viens de dire. Vous pouvez combattre, mais ils sont plus forts que vous. C'est comme ça. Il y a un mais parfois dans nos vies que l'on ne doit pas admettre, mes amis. Que l'on ne doit pas accepter. Mais que l'on doit refuser. Je suis un combattant pour Dieu. Et il n'y a pas de mais qui compte. Je peux continuer à combattre jusqu'au bout. Le temps est passé, je suis resté le même alors que j'ai 85 ans. Je suis resté le même, dira Josué. Je dirai Caleb. Caleb dit qu'avec le temps, les circonstances ont changé. Mais rien n'a affecté sa vie. Rien. Être tenace, c'est la qualité d'un chrétien thermostat. Vous connaissez les thermostats, hein? On en avait tous chacun chez vous. C'est toujours à la bonne température. C'est pas les chrétiens baromètres qui changent par rapport à ce qu'ici, à mon avis, on changerait... Il y a une fois, on a 2 degrés, puis le lendemain, on en a 12. Puis après, on peut monter même à 14, puis on retombe à moins 2. Ça, c'est les chrétiens baromètres qui vivent avec le temps. Mais il ne faut pas être des chrétiens baromètres. Il nous faut être des chrétiens thermostats qui restent, malgré le froid, comme nos corps sont à 36 degrés et ne changent pas hiver comme été, eh bien, notre vie spirituelle ne doit pouvoir rester à la même température tout le temps. Constamment. Vous êtes d'accord avec moi? Un jour, quelqu'un a dit, faut pas être un chrétien pétard. Vous savez ce que c'est, chrétien pétard? Il y a déjà vu un pétard? C'est paf! Puis il n'y a plus rien. Ou des chrétiens avec un feu d'artifice, là. Ah, c'est beau, hein? Mais quand le feu d'artifice est fini, boum! Il n'y en a plus. Soyons pas des chrétiens pétards. J'ai pas dit autre chose, hein? J'ai dit pétard. Alors je termine, je conclue ce matin. Pour 2018, fais un effort pour garder le moral. L'effort et la stabilité dans la productivité, dans tes études, dans le travail et dans ta marche avec le Seigneur. Un effort est à fournir. Il y a devant nous 344 jours, j'ai compté ce matin, qu'il reste avant le 31 décembre. 344 jours. Les principes sur lesquels tu bâtis ta vie feront que ta vie changera et que tu ne seras plus le même. Mais si, pour les 344 jours qui restent avant la fin de l'année, tu ne fais rien et que tu restes comme tu es aujourd'hui, peut-être, eh bien, il ne faut pas t'attendre à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Les gens qui réussissent ne sont pas différents de toi. Mais ils font partie de la minorité, se distinguent par prendre de bonnes décisions et qui les appliquent à leur vie. À leur vie. Les gens qui réussissent, eh bien ce n'est pas des gens différents. Nous sommes tous les mêmes. Ce matin, je mets devant toi d'être vainqueur, lève-toi, avance et donne le meilleur pour ta vie. La vie n'est pas une reproduction des échecs, de l'ignorance, de stérilité, de larmes. C'est pas ça la vie. Le moment est favorable de prendre des décisions qui gouverneront ta vie en 2018. Et mon plus grand souhait, celui aussi, celui de Dieu pour nous, c'est que nous ne baissions pas les bras. Nous ne baissions pas les bras, mais que nous ranimions le feu qui est en nous pour faire trembler l'ennemi. Et l'enfer, et faire éclater la gloire de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Faites trembler l'enfer, mes amis. Moi, j'aime ça. L'ennemi nous fait parfois souvent trop trembler. C'est pas vrai? Eh ouais. Alors, à nous de lui rendre l'appareil. Faites-le trembler. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Il aime pas. Il aime pas ça. Alors faites trembler l'enfer et qu'ensemble nous puissions faire un grand tremblement de terre ou un grand tremblement en enfer. Amen. Alors ce matin, c'est tout ce que nous vous souhaitons pour cette année 2018. Dieu vous bénisse. On s'incline dans la prière. Camille, je vais juste te demander, je t'ai mis au chômage ce matin, mais si tu veux bien venir juste au piano. J'espère que tu connais le chant. On va s'incliner devant le Seigneur. Nous voici devant toi, mon Dieu. J'ai apporté ta parole avec simplicité, avec ce que tu avais mis sur mon cœur pour ton peuple, pour tes enfants. Tu ne veux pas que nous puissions nous arrêter, nous stopper dans notre marche avec toi. Mais tu souhaites, Seigneur, c'est que nous puissions grandir, évoluer, que nous puissions aller de l'avant en étant des champions pour toi. Ne pas vivre sur le mot échec, et peut-être certains ce matin vivent avec. Ils n'arrivent pas à s'en débarrasser parce que ça leur colle à la peau. Le diable a réussi à les tenir et à leur faire croire qu'ils ne pourront jamais, non jamais s'en sortir. Ce matin, Seigneur, tu veux briser, et je veux briser dans le nom de Jésus, toutes les attaques de l'ennemi sur tes enfants qui ont été déstabilisés. Et leur faire prendre conscience que tu es là à leur côté, et que tu veux qu'ils redeviennent des champions pour toi. Permets-leur de vivre une vie de constance, une année constante, une année de production, une année d'excellence, où qu'ils puissent, à partir de ce jour, t'apporter le meilleur. Le meilleur pour toi. Et qu'ils réclament ce feu, le feu de l'esprit, le feu qui vient de toi, et qui va leur permettre d'être forts contre l'adversité, contre les difficultés, contre les épreuves. Nous savons ce que cette année nous réserve, mais nous savons que le diable, une fois de plus, ne chômera pas. Il y aura des temps difficiles. Il y aura, à un moment donné, peut-être l'envie de tout abandonner, de tout arrêter. Seigneur, permets à tes enfants de relever la tête. Ce jour où la difficulté sera là, au sommet, et de croire que tu prends tout sous ton contrôle et tu as tout entre tes mains. Seigneur, tu bénis cette église, tu bénis chaque personne qui est là ce matin d'une manière toute particulière. Je te bénis, Seigneur, parce que je sais qu'ils sont entre tes bonnes mains et que rien ne peut arriver sans ta volonté. Je veux te les remettre chacun afin que chacun puisse prendre conscience ce matin qu'il est temps de relever la tête et de regarder à toi. Qu'il est temps de marcher avec toi, qu'il est temps de faire route, et sachant que tu fais route avec nous. Anime le zèle, Seigneur. Anime l'enthousiasme, la force de te servir, le courage. Et donne-leur d'aller jusqu'au bout. Non pas simplement jusqu'à la fin de cette année, mais que ça ne puisse être qu'une ascension, Père. Une ascension constante, pour que tu sois glorifié, béni, dans le nom de Jésus. Amen. On va garder tête baissée, les yeux fermés. J'aimerais juste faire un appel ce matin. Je ne te connais pas, je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais tu peux te donner le droit de répondre à la parole du Seigneur ce matin. Et si dans ton cœur tu te sens touché parce que tu te dis, mais moi je me sens un peu comme Timothée, où j'ai peut-être bien commencé aujourd'hui, c'est dur. Cette parole, je la prends pour moi ce matin parce que Dieu m'a parlé. Alors je vais te demander simplement de te lever à ta place. Et nous allons prier ensemble. Y a-t-il des Timothée au milieu de nous ce matin? Y a-t-il des Timothée qui réclament l'aide de Dieu pour cette année? Y a-t-il des Timothée qui se sentent faibles, découragés, déçus? Y a-t-il des Timothée qui se sentent déstabilisés dans leur foi? Y a-t-il des Timothée qui ont des doutes quant à part par rapport à ce que Jésus a placé dans leur cœur? Seigneur, tu fais grâce. Tu n'es pas là pour juger ni condamner, j'en suis encore moins, Seigneur. Et je te remercie parce que ta parole a fait écho dans les cœurs. Je te bénis pour tous ceux qui se sont levés ce matin. Je vais demander à l'Église de prier avec moi pour eux. Je ne suis pas le seul à prier. Priez pour vos bien-aimés. Il n'est pas nécessaire de regarder qui est debout, c'est de se dire, Seigneur, bénis-les. Encourage-les. Qu'ils puissent qu'à partir de ce jour, ranimer le feu. Reprendre le flambeau. Et de se dire que les jours meilleurs sont devant. Que le meilleur est devant. Et qu'ils puissent s'en emparer ce matin. Par la foi, en disant, Seigneur, à partir de ce jour, je piétine mon passé, je le mets là à mes pieds, et je veux partir en vainqueur. Je veux voir l'avenir prometteur avec toi. Je ne veux pas rester stoïque. Je ne veux pas rester en stand-by, à l'arrêt, mais je veux poursuivre la marche avec toi, le chemin avec toi, en relevant la tête et en regardant vers le ciel. Seigneur, bénis-les ce matin. Bénis-les, passe au Père, au Saint-Esprit. Va les visiter, va les toucher, va les rencontrer dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, sois-en béni, loué, adoré. On va se lever ensemble si vous voulez. Et on va chanter ce chant qui dit « Laisse le Seigneur t'envahir ». Et franchement, j'aimerais que chacun en puisse le saisir pour notre cœur. C'est pas le Seigneur envahir mon voisin ou ma voisine, c'est laisse-toi envahir par Jésus. Et dis-lui, souffle Seigneur, souffle sur moi, viens, viens et remplis-moi de toi. Alléluia. Oh, laisse-le Seigneur t'envahir. T'entourer de ton amour, rafraîchir aujourd'hui ton âme et ton cœur. Oh, donne-lui ce qu'il te demande et son esprit descendra. Son amour sa voix dissipe la tristesse. Sa voix dissipe la tristesse. Et son nom répand la paix. Pour lui seul, nous vivons désormais. Levez les bras vers le ciel, Jésus remplis-nous. Seigneur, remplis-nous ce matin, alléluia. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. J'aimerais te prier, Seigneur, pour ce couple pastoral ce matin. Je vais te demander de les remplir de toi, de les visiter en cet instant, et que pendant toute cette année, ils puissent être des moteurs, qu'ils puissent être, Seigneur, des locomotives pour entraîner ton peuple ce matin, pendant toute cette année, que tu puisses te saisir de chacun d'eux, et dans leur